Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est tout juste 11h à Paris.
Olivier Sherman.
Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé tôt ce matin le centre de la Birmanie, un séisme dont les secousses ont été ressenties jusqu'en Chine et en Thaïlande. De très nombreux blessés ou victimes sont à déplorer, notamment à Naypyidaw, la capitale birmane, la junte birmane qui déclare l'état d'urgence dans 6 régions du pays et appelle à l'aide internationale. Le vice-président américain en visite au Groenland, il va se rendre dans une base militaire américaine. Une visite vécue sur place comme une provocation en raison des annonces de la volonté d'annexion de ce territoire de Donald Trump. Enfin, le bras droit d'Emmanuel Macron quitte l'Élysée après 10 ans passés aux côtés du président. Alexis Kohler démissionne de ses fonctions. La vidéo est impressionnante. À Bangkok, un immeuble en construction, haut de 30 étages, s'effondre comme un château de cartes. Une quarantaine d'ouvriers au moins sont pris au piège dans les décombres et au moins 3 morts déjà. C'est l'une des conséquences du puissant séisme qui a frappé le centre de la Birmanie. Tremblement de terre de magnitude de 7,7. Les secousses ont été ressenties jusqu'en Chine et en Thaïlande. Donc, Bangkok est en état d'urgence. Écoutez ce témoignage d'un habitant de Bangkok joint par Heike Schmidt. Il prenait un café dans son appartement au 11e étage de son immeuble lorsque la terre a tremblé.
Moi, j'ai senti comme si une fenêtre avait explosé et que tout bougeait avec un courant d'air. Alors, en fait, c'était le bâtiment qui bougeait tout seul, les portes qui basculaient. On était à 7,7 sur l'échelle de Richter et ça a duré pendant deux bonnes minutes. Et là, donc, on a décidé de descendre au rez-de-chaussée et sortir dans la rue. Ce que tout le monde a fait, en fait. C'est un immeuble qui a une trentaine d'années, qui en compte 30 étages. Il y a quelques débris sur une tour qui est à côté, plus récente. Quelques débris qui sont tombés. Et puis, ici, tout le monde est dehors, en fait. Tous les bureaux ont été évacués, les écoles ont été fermées, les hôpitaux sont fermés. Là, il y a un hôpital pas loin de chez moi, des infirmières et personnels soignants sont dehors. Voilà, et les sirènes, ça sonne de partout. Et de mémoire de les quelques Thaïlandais avec qui j'ai discuté, on n'a jamais vu ça à ce niveau-là de mouvement. Les gens sont très, très apeurés. Mais oui, c'est vrai que là, on se demande ce qui peut se passer. Tout peut se passer, on n'en sait rien, quoi.
L'épicentre de ce puissant tremblement de terre se trouve en Birmanie, à 17 km de Mandalay, une ville de plus d'un million d'habitants dans le centre du pays où de fortes secousses ont été ressenties. La junte au pouvoir en Birmanie déclare l'état d'urgence dans 6 régions du pays vu l'ampleur du séisme. En Birmanie justement où de très nombreuses victimes sont à déplorer, mais il est encore beaucoup trop tôt pour faire un bilan humain et un point sur les dégâts matériels qui semblent très importants dans cette région du monde. L'Inde est prête à offrir toute assistance possible à la Birmanie et à la Thaïlande, une déclaration du Premier ministre Narendra Modi. C'était un sommet très attendu. Après les discussions menées en début de semaine en Arabie Saoudite, entre d'un côté les Américains et les Ukrainiens et de l'autre les Américains et les Russes, ce jeudi, des dirigeants d'une trentaine de pays majoritairement européens, la coalition des volontaires, comme ils se font appeler, étaient réunis à Paris en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour finaliser les garanties de sécurité à apporter à Kiev en cas d'accord de paix avec la Russie, l'occasion de répondre aux exigences de Moscou, notamment la levée des sanctions européennes réclamées par le Kremlin. Romain Lemaresquier.
Encore une fois, les alliés de l'Ukraine sont unanimes. Non, ils ne comptent pas lever les sanctions contre la Russie, même si de son côté, Washington l'envisage. C'est là la principale information à retenir à l'issue de ce sommet de Paris, car si l'unanimité est de mise concernant les sanctions, ce n'est pas le cas en ce qui concerne le déploiement d'un contingent en Ukraine, comme garantie de sécurité en cas d'accord de paix avec la Russie. Une idée partagée par Londres et Paris, mais même si tous les alliés ne sont pas prêts à suivre cette initiative, Emmanuel Macron a confirmé qu'une mission exploratoire franco-britannique serait menée prochainement en Ukraine pour étudier la possibilité de déployer ce que le président français appelle une force de réassurance. Pour le président ukrainien, il y a encore beaucoup de questions, mais peu de réponses concernant cette force, d'où l'importance de mener une mission exploratoire. Après plus de 3 heures de discussion, Volodymyr Zelensky a tenu à saluer le soutien infaillible de ses alliés et les nombreuses propositions faites, notamment concernant la défense antiaérienne ou encore les investissements dans l'industrie de défense ukrainienne. Un président ukrainien qui, avant de quitter Paris, a tenu une conférence de presse, conférence au cours de laquelle il a appelé les États-Unis à réagir après les dernières frappes russes.
Vladimir Poutine a évoqué de son côté ce matin l'idée d'une administration transitoire pour l'Ukraine sous l'égide de l'ONU afin d'organiser une élection présidentielle démocratique dans ce pays avant toute négociation sur un accord de paix. À l'origine, il devait assister à l'un des plus gros événements de l'année au Groenland, le championnat national de course de chiens de traîneau. Mais les déclarations de Donald Trump qui promet d'annexer le territoire groenlandais sont venues bousculer leur déplacement pour ne pas attiser la colère des autorités locales et du gouvernement danois qui a autorité sur le Groenland. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, et son épouse vont se contenter d'une visite de la base américaine de Pitufi, la seule emprise militaire américaine dans l'Arctique, méconnue mais d'une importance capitale pour l'effort de défense américain. Vincent Souriau.
Pitufik, c'est une relique de la guerre froide, une base aménagée dans les années 50 après la signature d'un accord de défense entre le Danemark et les États-Unis. Washington, qui paye un loyer au gouvernement danois pour occuper ces lieux, y a déployé des radars très sophistiqués, une station de contrôle satellitaire, un port en eau profonde et un aéroport qui accueille plus de 3000 vols par an. Au plus fort des tensions avec l'URSS, jusqu'à 10 000 soldats y ont stationné. Ils ne sont plus qu'une grosse centaine aujourd'hui, mais Pitufik reste un atout majeur pour la Maison Blanche, seul avant-poste américain dans l'Arctique, à portée de tir de la Russie. Si un missile russe ou chinois était tiré vers l'Amérique du Nord, c'est cette base du Groenland qui donnerait l'alerte avant toutes les autres, grâce à sa localisation unique à 1500 petits kilomètres du pôle Nord.
C'est la fin d'une ère pour Emmanuel Macron. Le président français perd son plus proche collaborateur, le secrétaire général de l'ISEE, Alexis Kohler. Après plusieurs rumeurs de départ, il a annoncé sa démission au président de la République. Il quittera le palais présidentiel en avril. Alexis Kohler travaillait avec Emmanuel Macron depuis 10 ans. Stéphane Duguay.
Emmanuel Macron perd son bras droit, son deuxième cerveau, comme certains le surnomment. Alexis Kohler quitte l'Élysée où il était un rouage essentiel chargé de traduire concrètement les engagements politiques du chef de l'État. Les deux hommes ont commencé à travailler ensemble à Bercy en 2014. Alexis Kohler était alors le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, puis artisan de sa victoire en 2017. Un proche parmi les proches qui a résisté aux secousses des deux quinquennats et aux affaires judiciaires. Alexis Kohler est accusé de prise illégale d'intérêt dans l'affaire de l'armateur MSC, fondé et dirigé par les cousins de sa mère, soupçonné aussi de trafic d'influence dans le cadre de la fusion Veolia-Suez. Le désormais ex-secrétaire général était discret, il n'apparaissait à la télévision que pour annoncer les gouvernements des 6 premiers ministres d'Emmanuel Macron, plus rarement lors de commissions d'enquête comme au Sénat sur l'affaire Benalla. Récemment, il avait même refusé de se rendre à l'Assemblée pour répondre aux députés sur le dérapage des finances publiques. Alexis Kohler quitte l'Élysée pour le secteur privé où il devrait prendre un poste dans la banque.
Et oui, Alexis Kohler vient effectivement d'être nommé directeur général adjoint de la Société Générale. Emmanuel Moulin, ancien directeur du Trésor, puis directeur de cabinet de Gabriel Attal lorsqu'il était Premier ministre, succédera à Alexis Kohler le 14 avril. 366 millions de tonnes de dioxyde de carbone, c'est le bilan des émissions françaises de gaz à effet de serre en 2024, données publiées ce matin, en baisse par rapport à 2023, c'est une bonne chose, mais une baisse bien moins marquée que les années précédentes, et ça, c'est moins bien, car il faudra aller bien plus vite pour respecter les engagements que la France s'est fixés elle-même. Simon Rosé.
373 millions de tonnes en 2023, 366 millions de tonnes en 2024. Les émissions françaises de gaz à effet de serre poursuivent leur décrue, moins 1,8%. Mais le rythme interroge. Entre 2022 et 2023, la baisse approchait les 6%. Une dynamique qu'il faudra retrouver pour tenir les objectifs. Sur le papier, il y a des marges. L'an dernier, c'est essentiellement le secteur de l'énergie qui a contribué à la baisse des émissions, moins 11% pour lui seul, en raison notamment d'une meilleure disponibilité des moyens de production nucléaire et hydroélectrique. Pour les autres secteurs, c'est en revanche presque du surplace, moins 1% pour le logement, moins 2% pour l'industrie et la construction. Le transport reste toujours le secteur le plus compliqué à décarboner, moins 0,7%. Beaucoup de chiffres pour une réalité. Après des années à un rythme soutenu, la transition écologique française entre dans le dur. Pas sûr que la situation évolue dans l'immédiat, tant le domaine a perdu des plumes dans le budget 2025 du pays, 2 milliards d'euros, avec parmi les principales victimes l'enveloppe destinée au verdissement du parc automobile. Elle a été divisée par 3.
Simon Rosé, le rythme de baisse des émissions françaises de gaz à effet de serre marque donc à son tour le pas en France, tout comme en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, tandis que les émissions ont continué d'augmenter en Chine lors de l'année la plus chaude jamais mesurée. Vous écoutez Radio France Internationale, il est tout juste 11h10 à Paris.